Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle heure musicale sur Fréquence Protestante. Aujourd'hui consacrée à Sébastien Fournier, contre-ténor, qui nous a fait le plaisir de se joindre à nous aujourd'hui au micro. Bonjour Sébastien.
Bonjour Alexandra, merci de m'inviter, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui.
C'est un réel plaisir de vous recevoir. Et avant d'en savoir plus à votre sujet, je propose que l'on écoute tout de suite votre voix de contre-ténor.
Sweet.
Sébastien Fournier, c'est votre voix que nous venons d'entendre dans cet extrait composé par Purcell intitulé « Oh Solitude », qui est un extrait qui vous tient à cœur particulièrement. Pour quelle raison ?
Alors, en effet, la musique d'Henri Purcell est une musique qui m'a troublé dès mon plus jeune âge, aussi loin que je me souvienne. Et j'ai entendu pour la première fois ce disque merveilleux d'Alfred Deller, qui s'appelait Music for a While, c'est Harmonia Mundi à l'époque qui avait produit ça. Et j'ai eu un choc émotionnel vraiment terrible qui fait que j'ai senti qu'on touchait à une grâce absolue par l'intermédiaire de cette voix très particulière, cette voix de contre-ténor. Je me suis dit, c'est ça en fait que je veux faire.
Et d'ailleurs, est-ce que ça a été facile de travailler cette voix pour vous ? Est-ce que vous aviez des prédispositions naturelles pour pratiquer ce type de chant qui est si particulier ? Ou est-ce qu'au contraire, il vous a fallu peut-être des années de pratique pour accéder à un tel degré de technicité ?
Alors, c'est une excellente question, je trouve, parce qu'en effet, il y a tellement de croyances qui sont autour de la voix en règle générale, et de la voix de contre-ténor en particulier, qu'on entend toutes sortes de choses. En réalité, j'ai eu la chance de chanter dans une maîtrise de garçons dans la cathédrale de Lyon, de laquelle je suis issu, et cette voix s'est imposée naturellement à moi. Donc j'ai fait cette voix j'ai pratiqué la voix de contre-ténor parce que, en fait, j'avais pas le choix. Les autres voix me fatiguaient beaucoup plus. La voix de ténor m'égosillait complètement. Puis en plus, il faut avoir un tempérament pour aimer gueuler, ce qui n'est pas mon genre. Et la voix de basse était trop grave, j'étais pas du tout assez viril pour ça. Donc la voix de contre-ténor, en revanche, ne me demandait absolument aucun effort. Mais véridique, hein. Et de cette étrangeté lourde à porter pour un adolescent, mon chef de chœur m'a dit « Mais non, c'est une force formidable !» Et là se fait à la rencontre avec Alfred Deller, le conservatoire, et tout s'enchaîne.
Alors c'est une voix qui surprend la voix de contre-ténor, souvent. Parfois, il peut arriver qu'on entende un extrait musical et que l'on pense qu'il s'agit là d'une voix féminine, d'une voix de femme. Et en effet, parfois, l'auditeur peut être surpris en voyant le corps dont émane cette voix.
Exactement. Vous avez tout à fait raison. Il y a plusieurs raisons. Il y a des raisons historiques. Alors, j'espère que je ne vais choquer personne, mais je vais en tout cas en surprendre plus d'un, ça c'est sûr. Il faut revenir sur l'historique de la voix de contre-ténor. On dit contre-ténor qui est la voix propre, mais là en France on dit haute contre. Pourquoi ? Parce qu'il y a une certaine époque, qui s'appelle la Révolution française, on a voulu franciser tous les termes, et M. Jean-Jacques Rousseau, à commencer par lui, s'est attaché dans son dictionnaire à définir toutes les choses avec des termes français appropriés. Donc on a dit haute contre, ma définition de cette voix-là sur laquelle tout le monde n'est pas d'accord. Par exemple, William Christie la définirait plutôt comme une voix de ténor léger, alors que les Anglais, eux, disent qu'il y a un ténor, comme les Allemands, ils pensent que c'est plutôt une voix de fausset. Donc entre une voix de ténor légère et une voix de fausset, c'est-à-dire un mécanisme d'utilisation différent, il y a tout un monde. C'est-à-dire qu'on va sur une même fréquence, on va les mettre d'une façon complètement différente. Ça veut dire que qu'il y a des questions d'esthétique, de couleur et puis des batailles de chapelle qui sont sans fin. Mais revenons au côté historique. Alors historiquement, la Révolution française passe par là. On ferme toutes les églises, toutes les manécanteries. On fait une bonne grosse boucherie générale et l'État dit on a quand même besoin d'un peu de culture. Finalement, on va mettre un peu des sous là-dedans, donc ils créent les conservatoires. Et à partir de la musique militaire, on va recréer de la musique d'État et on va former des nouveaux chanteurs, on va former des nouveaux musiciens, puisqu'avant, c'était l'Église qui avait la transmission du savoir, pour être clair. Donc l'Église n'existant plus, tout étant fermé, on perd le son. On perd le son, ça s'est fait tout le monde, la Révolution française, ça s'est fait quand même dans le sang et dans une violence extrême. Alors qu'en Angleterre, d'abord la Révolution est 100 ans plus tôt que chez nous, et ça s'est fait en douceur, en tout cas pas dans un bain de sang, ce qui fait que l'idée de la séparation de l'Église et de l'État, bien antérieure, permet de conserver les institutions et de laisser les gens continuer à chanter, ce qui fait que ce que je ne pouvais plus trouver en France, j'ai décidé d'aller chercher en Angleterre du fait de cette interruption. La transmission des arts, en règle générale, des arts qui requièrent le savoir-faire, la main de l'homme, elle se fait toujours de maître à élève. Donc si vous n'avez personne pour vous montrer l'exemple, ce qui était le cas. Il n'y avait plus personne qui savait chanter comme ça, parce que tout était fermé, et c'était même interdit. En plus que Jean-Jacques Rousseau la qualifie de voix feinte, de voix très souvent fausse et vraiment désagréable, donc de voix inutile qui n'avait plus de raison d'exister. Donc on comprend qu'elle est disparue en France. Le grand prêtre du savoir de l'époque nous dit que, en fait, il faut l'éviter à tout prix. Donc,
pourtant,
en Angleterre, on retrouve ça. Ouais.
Et pourtant, c'est une voix qui jouit d'un immense répertoire.
Maintenant, oui. Maintenant, de plus en plus, grâce à Alfred Deller, grâce à des pionniers et des gens qui l'ont fait sortir de l'anonymat. Mais par exemple, Boulez ou des gens comme ça, qui étaient des fins musicologues et des compositeurs, n'avaient absolument aucun goût pour ce genre de voix. Pour eux, non, en dehors de l'État, point de salut.
Au contraire de Vivaldi, dont nous allons écouter un extrait tout de suite. Il s'agissait de deux extraits du Stabat Mater pour alto, corde et basse continue, composé par Antonio Vivaldi. Et c'est votre voix, Sébastien Fournier, qui nous a permis d'entendre ce Stabat Mater, enfin, ces extraits du Stabat Mater. Vous nous disiez qu'historiquement, la voix de contre-ténor que vous pratiquez, qui est la vôtre, s'est retrouvé un petit peu mise au banc de l'enseignement musical.
C'est exact.
Et peut-être est-ce ce fait-là qui a permis à cette voix, ou plus particulièrement au chanteur contre-ténor, de développer une individualité plus marquée. Peut-être que le fait que cette voix soit pratiquée hors d'un cadre très maîtrisé par l'État, au moyen du conservatoire, peut-être que ce fait-là a permis plus d'originalité pour ces chanteurs.
Oui, absolument. Vous avez tout à fait raison. C'est une voie de traverse. Finalement, les contre-ténors ont été obligés de prendre. Puisque quand j'étais jeune, personne ne pouvait enseigner la voix de contre-ténor. Alors j'avais pourtant je suis allé voir des gens vraiment connus dans les conservatoires et on était extrêmement réticents. Ah ben non, je ne connais pas, c'est pas la technique, le bel canto, non, on sait pas trop quoi faire de votre voix. En France, les profs, il y a 20 ans, avaient énormément de mal. Les professeurs dignes de ce nom enseignaient au contre-ténor. On leur faisait peur.
Et c'est la raison pour laquelle vous vous êtes rendu dans un pays dans lequel vous ne faisiez pas peur aux professeurs, apparemment.
Non, au contraire. Non, oui. non, je me suis bien fait dresser en Angleterre. C'était assez drôle parce que je suis parti, j'étais un chanteur d'un très bon niveau. Et en traversant la Manche, j'étais devenu nul. Alors vous avez des vertus là. Et ça m'a fait vraiment tout drôle, ça m'a fait un gros
devenu
choc culturel.
En comparaison avec les chanteurs qui travaillaient d'ores et déjà sur place, ou devenu
exact.
Nul parce qu'il vous a fallu retravailler toute votre technique depuis le départ?
Alors les deux, j'ai vraiment envie de dire les deux sans faire sans être complaisant, vraiment les deux. Je pense que j'étais pas du tout au niveau, je pense que même si l'enseignement que j'ai reçu en France était de très bonne qualité, je pense que la distance avec la langue était tellement grande, il y avait tellement, j'étais tellement éloigné de la recherche de la qualité du mot, que j'étais vraiment loin, et du son aussi hein, dont je parlais, dont on avait perdu la trace en France.
Et c'est la raison pour laquelle, entre la conception que vous avez vous-même de cette voix qui vous a séduit dès le plus jeune âge, comme vous disiez tout à l'heure, et puis ce parcours multiculturel en fait qui s'est avéré être le vôtre, ce sont ces éléments-là de votre parcours qui ont constitué finalement votre personnalité musicale.
J'ai l'impression.
Alors, quelles sont les particularités, justement, de votre personnalité musicale?
Alors, c'est difficile de se définir soi-même, mais on m'a dit pas mal de choses donc je vais essayer de vous restituer. D'abord, j'ai une espèce de facilité, je ne sais pas pourquoi, de passer entre la voix de poitrine et la voix de fausset, de faire la... parce que normalement, on parle comme ça et on chante comme ça. Ça, c'est la voix de contre-ténor. On chante dans un mécanisme qui est différent. Et avec... les Français, comme Gérard Lenne, par exemple, ou Henri Ledroit, dans leurs enregistrements, utilisaient vraiment la voix de poitrine abondamment. Alors qu'en Angleterre, on est plus réticent avec ça. On va le plus bas possible avec la voix de fausset. Mais du coup, on perd de la force, qui pour l'opéra n'est pas très bien, on est moins entendu. Les jeunes contre-ténors ont compris ça maintenant et ils font un peu machine arrière. Mais il y a une vingtaine d'années, personne ne faisait ça à quelqu'un. Et c'est d'ailleurs là-dessus que Gérard Lenne a fait toute sa carrière, parce que c'était à peu près le seul qui, à la suite d'Henri Ledroit, qui utilisait abondamment sa voix de poitrine et d'une manière hyper belle, avec un beau cuivre, en plus de sa sensibilité. Il a pu vraiment nous faire entendre de très belles pages de musique française. Donc musique française, on poitrine plutôt, hein, plutôt le côté ténor de la basse, et musique anglaise, on chante plutôt solitude, plutôt complètement des lignes un peu éthérées, comme en musique allemande, par exemple avec Andreas Scholl, qui est un très bon exemple, ou Michael Chance, qui était aussi mon prof en Angleterre. Et j'ai pas su me positionner entre les deux. Donc, mon gros délire, c'était de voyager de l'un à l'autre librement.
Alors, voilà pour vos particularités, disons, techniques, pour votre profil technique. Passons à l'esthétique. Il y a quelque chose qui est remarquable, je trouve, dans votre parcours. C'est votre volonté de travailler autour de rencontres. Et rencontres culturelles, d'une part, dont on va évidemment parler, mais avant ça, j'aimerais qu'on parle de la rencontre entre la tradition et la modernité, que vous faites souvent comme ça, collaborer dans vos enregistrements.
Oui, c'est tout à fait vrai, j'ai eu beaucoup de chance, parce que j'ai rencontré des personnes, des artistes, qui m'ont toujours poussé à aller un peu plus loin, et je me suis exprimé le plus alors que ça n'était pas mon intention dès le départ, le plus dans l'originalité, dans la rencontre entre les disciplines artistiques, entre les personnes. Le monde classique pur est un monde dans lequel je me sens pas forcément bien, et d'ailleurs pas tout simplement parce que je n'y ai pas été bien accueilli, c'est vraiment tout bête. Et je crois que, pour des raisons qui m'échappent encore, hein, même si j'aime beaucoup les airs d'opéra, j'aime beaucoup, j'ai travaillé avec des gens merveilleux et j'ai eu la chance de faire de très beaux plateaux, en réalité, ce qui m'intéresse profondément, c'est le dialogue des cultures, c'est qu'est-ce que je suis capable d'entendre, d'accepter, de recevoir, et comment je suis capable d'échanger, comment je suis capable de le redistribuer. Qu'est-ce que mon cerveau est capable d'apprécier dans tous les arts, hein, en littérature, qu'est-ce que je suis capable d'entendre, de recevoir, et comment je peux échanger avec l'autre. Et je m'aperçois que si je ne travaille pas sur moi-même, je suis toujours en décalage entre la volonté d'un philosophe ou d'un peintre d'exprimer son art, sa parole, et la manière que j'ai de le recevoir. Je me rends compte que si je ne travaille pas sur moi-même à cette espèce de conversion de l'oreille, je suis bien souvent à côté de la plaque. Donc j'ai besoin des autres pour progresser, et le dialogue des cultures, le dialogue des arts, c'est avant tout, c'est prendre en considération l'autre. C'est ça, non ?
Il y a un autre musicien avec lequel vous collaborez régulièrement, que j'ai eu le plaisir, l'immense plaisir de recevoir également à ce micro lors d'une précédente émission. Il s'agit de Michel Deneuve, qui est connu comme étant joueur de cristal, de cet instrument qui est si particulier, si original, si moderne, si intemporel à la fois. Il était venu nous en parler longuement et... Vous avez enregistré avec lui des œuvres du répertoire classique. Il accompagne votre voix qui est si marquée historiquement à l'aide de cet instrument si récent, si moderne justement, ce qui donne un ensemble tout à fait particulier. Et avant d'en savoir plus encore, je vous laisse découvrir simplement, sans vous en dire plus, pour ceux d'entre vous qui n'auraient pas entendu l'émission portant sur le cristal, je vous laisse découvrir cet instrument qui accompagne la voix de notre cher contre-ténor Sébastien Fournier.
To bear.
un nouvel extrait composé par Henri Purcell, cette fois-ci intitulé Cold Song, et cette fois-ci avec une instrumentation bien plus moderne, plus originale, je dirais, puisque Sébastien Fournier, vous étiez accompagné par Michel Deneuve au Cristal, le qui devrait être fameux en tout cas,
ouais, c'est
Cristal
vrai,
Bachet,
vrai.
Et également accompagné par Christophe Beau. Ça vous tient à cœur, la rencontre musicale, la rencontre des cultures, la rencontre entre différentes époques musicales. Cela fait partie de votre identité en tant qu'artiste. Et vous avez, comme cela, expérimenté à de nombreuses reprises différentes configurations de trio, de duo, de quatuor. En ce qui me concerne, je vous ai découvert lors d'un concert qui alliait donc votre voix de contre-ténor avec le Cristal, mais également le théorbe et la viole de gambe, qui produisaient un résultat à la frontière du mystique, puisque totalement insituable ni dans le temps ni dans l'espace. Qu'est-ce qui vous attire vers cela? Qu'est-ce qui vous meut?
Alors, je vais vous faire la réponse de Dante. Hein, il conclut les trois livres par la même phrase de la Divine Comédie. Il dit « L'amour qui seul meut le ciel et les étoiles voilà. ». Et pour moi, je le cite parce que c'est un ouvrage qui est très important, un ouvrage d'inspiration par les fulgurances. Parce que pour moi, il contient la base de la civilisation occidentale. Alors, c'est incontournable. Et c'est un ouvrage qui est éminemment musical, avec une langue qui est parfaite. C'est hyper beau. Alors, on parlait de musique baroque. Alors, je crée un ensemble de musique baroque parce que je préfère faire mon truc plutôt que de faire celui des autres. Voilà, en tant que bon sale gauche que je suis. Et attaché à cette vertu très individualiste, je fais de la musique baroque, c'est ce que j'aime le mieux faire. Et dans la musique baroque, il y a toujours un continuo, donc une base, des cordes pincées, ça peut être un clavecin, théorbe qu'on transporte un peu plus facilement, et une basse. La basse, ça peut être une viole de gambe, un violoncelle, mais la viole de gambe avec son bien français, bien typique, et je trouve qui nous donne des variations, qui permet de voyager facilement de la musique française à la musique anglaise. Voilà. Après, donc je fais des récitals et je me dis, qu'est-ce qu'on peut ajouter? Et je rencontre Michel Deneuve, hein, rencontre fabuleuse. Je le rencontre, c'est pas lui que je rencontre, j'en connais une de ses élèves en Chine, puisque avec notre ensemble, on est sélectionné pour l'exposition universelle en 2010 à Shanghai, où je rencontre la Chine, c'est fabuleux, et je découvre cet instrument. J'habitais à l'époque rue des Carmes je trouve cet instrument, je dis, mais c'est extraordinaire, et j'en parle à quelqu'un, un voisin, il me dit, je lui dis, j'ai rencontré un instrument fabuleux qui s'appelle le Cristal Bachet, ça fait des sons, mais c'est merveilleux. Mais personne ne connaît, moi je ne connaissais même pas. Il me dit, ah mais moi je connais très bien. Bien joué Sébastien, en fait, bienvenue dans le royaume des ignorants. Et il me dit, je vais te dire mieux mon garçon, en fait les inventeurs ils habitent à 50 mètres en dessous de chez toi, et le grand prêtre, l'homme qui a fait de cet instrument ce qu'il est aujourd'hui et qui est probablement, enfin qui est le père de tous les instrumentistes ou les cristallistes du monde, c'est Michel Deneuve, il habite à 100 mètres au-dessus de chez toi. Donc là j'habitais entre les... voilà, la destinée nous avait réunis. Et je rencontre Michel Deneuve, je dis, est-ce que vous accepteriez? Évidemment, comme il n'est pas farouche, il est très ouvert. Il m'a dit, bon, t'es contre-ténor, c'est pas grave, mais on va voir ce qu'on peut faire. Vous savez, ces gens étranges, pauvre garçon. Et là, on commence à travailler, et c'est le fit, il m'apprend plein de choses, et j'essaye de comprendre l'instrument, je travaille, je refais toute ma technique, parce que ça n'allait pas du tout. Et avec beaucoup de patience, beaucoup de gentillesse, Michel m'a accueilli, est venu dans mon répertoire, nous avons échangé. Il a fait des créations, parce qu'il est aussi compositeur, qui pour la voix de contre-ténor sont somptueuses. Et je découvre là que l'un des derniers instruments, si ce n'est le dernier instrument polyphonique, sans moyen mécanique, sans moyen, sans électricité, tout ça, moyen parfaitement naturel, on va dire. On pourrait dire un piano de verre, les gens disent orgue de verre. Un orgue, bah, faut souffler quand même dedans, donc faut de l'électricité. Donc c'est plutôt un instrument mécanique, plutôt plus proche du piano, que cet instrument est le plus proche, cet instrument résolument moderne est le plus proche de l'instrument le plus ancien du monde, qu'est la voix humaine. Et non seulement ça, mais en plus il est particulièrement adapté à la voix de contre-ténor, puisque son exigence dans son phrasé, aussi bien dans les attaques que dans les fins de phrase, que dans la tenue, demande un parfait contrôle du vibrato. Mmh. Ce qui devrait être le cas de la voix de contre-ténor, en tout cas celle que je choisis. Alors, évident qu'on n'est pas du tout dans les esthétiques à la mode où les contre-ténors chantent plutôt avec des voix féminines et plus ils ressemblent à une femme, plus ils sont contents. Moi, je préfère des voix plutôt comme Alfred Deller, quitte à ne pas être à la mode, mais au moins avec un dialogue plus proche et plus véritable avec les autres instruments. Voilà ce que je pourrais dire de Michel Deneuve.
En ce qui concerne votre voix, vous qui êtes accompagné ou qui accompagnez de nombreux instruments, selon les formations, on parle justement de la proximité entre les instruments et la voix humaine. Vous nous parlez du cristal et de la voix de contre-ténor. On entend souvent dire que le violoncelle est l'instrument qui est le plus proche justement de la voix humaine de manière plus générale. Le fait d'être confronté comme ça à une variété d'instruments, est-ce que cela vous permet à vous peut-être de vous rapprocher justement de ces instruments-là? Est-ce que ça remet en question votre technique vocale? Est-ce que cela vous encourage à expérimenter cette voix qui est déjà originale, avec certitude, étrange selon beaucoup, et presque justement expérimentale par nature? Est-ce que cela vous permet à vous d'enrichir justement votre technique, votre champ des possibles, vocalement parlant, de travailler avec autant d'instruments différents?
Alors, si on aime le travail et la difficulté, ce qui est mon cas, oui, c'est tout à fait mon cas, c'est quand même l'enfer d'apprendre toujours des instruments nouveaux, d'apprendre des timbres et de réussir, c'est comme une recette de cuisine. Vous réussissez un plat, chaque personne, derrière son fourneau, essaye de réussir le plus parfaitement possible ce qu'il est en train de faire. Et il innove, on essaye sans arrêt, on remue, on change les proportions, on rajoute quelque chose. Et parfois ça fonctionne, parfois ça fonctionne pas, mais on sait que ce processus-là est un processus passionnant. Mmh. On sait que ça remplit l'âme quand c'est réussi, on sait qu'on fait plaisir à nos convives, on sait qu'on va tous passer un bon moment.
Ce que vous visez de surcroît, si j'ai bien compris, ce n'est pas la perfection, mais plutôt l'émotion.
Oui, la plénitude du moment, oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a, aujourd'hui, me semble-t-il, il y a une prise de conscience un peu accrue qu'il faut vivre quand même l'instant présent. Hier, c'est passé. Peut-être qu'on peut se servir de ces informations pour nourrir et pour pas répéter ses erreurs aujourd'hui. Mais en aucun cas, on peut vivre dans demain. Avec son téléphone, on vit dans demain. Les gens, je vois, même mes élèves, ils essaient de communiquer. Ils pensent qu'ils communiquent avec quelqu'un à travers leurs applications. Mais non, ils communiquent avec leur téléphone. Alors que là, quand je vous parle, Alexandra, c'est à vous que je parle. Et là, on a un échange. Et ça, c'est sympa. C'est ça, la vie.
Je me suis arrêtée sur l'idée selon laquelle on vit dans demain sur nos téléphones, alors que j'ai plutôt l'impression qu'on vit dans nulle part.
Oui, tout à fait.
Revenons à la musique. Une autre configuration que je trouve tout à fait intéressante, musicalement parlant, et dont j'aimerais que nous écoutions un extrait, est celle qui réunit votre voix avec notamment une cornemuse.
Mais oui, mais parce qu'il faut essayer, Bon, parfois ça fonctionne pas, mais là ça fonctionne. Et tous les essais que j'ai faits m'ont enrichi, ont fait de moi une meilleure personne. Ça, pour moi, j'adore.
Alors allons-y.
Oh,
Il s'agissait de Douce Dame Jolie de...
Guillaume de Machaut, la grosse rockstar du XIVe siècle.
Enregistré par vous, Sébastien Fournier, contre-ténor, accompagné de vos acolytes
voilà,
musiciens.
Michel Glasgow à l'accordéon, qui est merveilleux, parce qu'il fait le travail du continuo, de l'orchestre et du bal musette. Et Jean-Christophe Hurteau, qui joue de la cornemuse et de toutes les flûtes possibles et imaginables.
Et l'ensemble s'appelle ?
Alors, il s'agit du trio Sprezzatura. Donc, l'ensemble Sprezzatura se compose de différentes formes, donc sous forme d'invités, d'amis. Michel Deneuve est un artiste invité, donc d'un des programmes de Sprezzatura, qui est un laboratoire où on expérimente des musiques, des interprétations, où on compare les répertoires, où on fait toutes sortes de choses. On y danse même, si vous voulez savoir.
Mm-hmm. Oui, pourquoi se priver de danser sur ces musiques-là que vous mettez à jour ce serait idiot de s'en priver.
Mais exactement, et d'autant que ce projet que j'ai fait en Afrique, quand je chante un Ave Maria avec des Africains, où je vois que tout le monde danse sur l'Ave Maria de Gounod, c'est quand même... on se dit qu'il y a quelque chose dans la musique, en Europe... Enfin, en Occident et peut-être en France en particulier, qu'on a un peu raté dans la transmission.
Est-ce qu'on n'aurait pas trop intellectualisé la musique ? Est-ce qu'elle n'aurait pas quitté notre corps ? On a rarement vu dans les salles, dans les grandes salles et petites salles de concert en France, on a rarement vu les spectateurs se mettre à danser pendant les concerts.
Voilà, en tout cas pas dans les milieux que nous fréquentons malheureusement. Oui.
Alors que dans d'autres pays, dans d'autres contextes, d'autres milieux, mais apparemment, oui, un Ave Maria peut soulever les corps de ceux qui
complètement.
L'écoutent.
Complètement, parce que dans ce que je découvre, puisque c'est un peu le cœur de ma recherche entre l'Afrique et la France, ce que je découvre, c'est que sur ce continent-là, on ne sépare pas la musique, le chant, la voix, et le corps et la danse. C'est une seule et même chose, ce sont trois aspects. Hein, on retrouve dans notre tradition ces trinités un peu corps, esprit et âme. Ben là, pour les Africains, c'est invraisemblable de séparer ces trois choses. Si c'est bien, ça se danse. Si ça se danse pas, c'est que c'est pas bien, les gars. On s'endort, quoi.
Vous êtes nombreux dans cet ensemble Sprezzatura ?
Alors, on est trois de base, c'est-à-dire un chanteur et un continuo, c'est-à-dire quelqu'un qui fait un clavier, qui fait l'harmonie, plus une basse. Et après, je rajoute des percussions, comme nous avons Henri Agnel, qui est extraordinaire, que j'ai rencontré au Moulin d'Andé, grâce à Michel Deneuve, d'ailleurs. Hein. Bon, non, Michel, toujours Michel. Ben oui, Michel Deneuve. Il est incontournable. Et avec qui je partage ce goût pour la musique anglaise, la musique de Dowland, de Purcell, et ce goût pour le raffinement de la langue. Et vous savez que la musique baroque, c'est une espèce de réaction contre l'effervescence de la Renaissance avec des polyphonies où on ne comprenait plus le texte. C'était très beau, hein, avec Gesualdo, des polyphonies vraiment d'une modernité merveilleuse, des génies, mais les gars, qu'est-ce que vous racontez ? On ne comprend rien, il faut arrêter. Donc, Caccini, Monteverdi, enfin plein de gens, Peri, tout ça, ils se disent, on arrête la tendance. Maintenant, on va mettre le mot en dernier. Qu'est-ce qu'on raconte ? C'est pas mal quand même de savoir ce qu'on dit. Le mot d'abord. Ensuite, on va mettre le rythme. Comment on le dit ? Quelle fréquence ? La musicalité des mots ? Comment est-ce qu'ils se répondent ? La poésie, c'est quand même merveilleux. Surtout pour un pays comme la France, la poésie, c'est quand même un pilier quoi, de notre culture. Et on met le son en dernier. Et si vous regardez ce triptyque baroque, on dit mot, rythme, son, ben vous avez exactement l'inverse de la définition de l'opéra, qui est le son d'abord... le rythme, bon, c'est un peu quand chacun fait comme il veut, hein. Enfin, si vous voulez, allez, bon, d'accord. Et puis après, on gueule et on comprend quoi ? On comprend que dalle.
C'est le sens avant le son.
Exactement.
Et le sens devient finalement la fin au service de laquelle on va mettre en œuvre les moyens d'interprétation, de surgissement, de transmission et ainsi de suite. Mais c'est le sens qui conduit finalement toute création musicale.
Exactement,
à ce
toute action.
Ça paraît logique, ouais. Dit comme ça.
Oui, et on aimerait que ce soit un peu plus le cas sur scène. Enfin, c'est pas bien ce que je viens de faire.
Alors, Sébastien Fournier, autour de ce travail expérimental, vous avez également commis des enregistrements.
Ah oui, voilà, c'est vrai. À l'insu de mon plein gré, je l'avoue.
il a bien fallu finalement immortaliser ces expériences musicales que vous faites régulièrement, ces explorations musicales. Et vous avez sorti un album d'ailleurs tout récemment, n'est-ce pas ?
Oui, tout à fait. Donc ça reste quand même très classique avec Renaud Gabriel Pion qui est un musicien merveilleux qui joue de toutes sortes de clarinettes et de saxo. Il écrit très très bien et il a produit un album vraiment remarquable qui a été d'ailleurs félicité par salué par la critique, par Télérama. Et j'ai enregistré une plage qui s'appelle The Price, où il mélange la voix de contre-ténor dans un univers complètement étrange et décalé, avec des pulsations qui légèrement bougent. Ça donne, je trouve que le génie de sa composition nous ramène très bizarrement, très à l'ère médiévale.
Thank you.
Il s'agissait de l'extrait intitulé The Price, tiré de l'album Spiritus, composé par Renaud Gabriel Pion, n'est-ce pas ?
Ouais.
Produit par...
Produit par France Musique, on a beaucoup de chance sur ce coup-là.
Donc c'est un album... Cet extrait est-il représentatif de cet album ?
Du reste, oui, tout à fait, parce que Renaud Gabriel nous emmène dans, dans un univers onirique qui ne choque pas. Il fait de la musique contemporaine qui s'écoute avec plaisir. Mmh. Et c'est pas si fréquent.
Non, nous en parlions hors antenne. Effectivement, ce n'est pas si fréquent. Et cet extrait-là, je le trouve personnellement très beau, très réussi, justement.
Ah oui, je crois qu'il a compris vraiment l'essence de la voix de contre-ténor. Et en plus de son écriture musicale, parce que c'est un musicien juste vraiment dans les tops français, je trouve. Et voilà, il respecte, il a un langage. Et il essaye de partager ce qu'il a à dire, ce qu'il a dans son intérieur, de la façon la plus simple qui soit. Et me semble-t-il, son propos est assez évident, non ?
Je trouve aussi. Je trouve aussi. Où peut-on trouver cet album ?
Alors, je crois qu'il est distribué en ligne. Spiritus, voilà, moi je ne suis pas un pro de la distrib, mais je sais, je l'ai trouvé sur Internet.
L'album, donc intitulé ouais. Spiritus, de Renaud Gabriel Pion. Où peut-on trouver vos enregistrements ? Sur YouTube, entre autres ?
Oui, il y en a quelques-uns. Et aussi maintenant, ils sont petit à petit mis en vente sur Internet, les opéras. Alors, mon site Internet indique bien ces choses-là. J'ai un site Internet qui porte mon nom, comme c'est original. SébastienFournier.com. Ou sur celui de l'ensemble de musique baroque, Sprezzatura. Donc, c'est Sprezzatura.fr, puisque nous sommes français et fiers de l'être.
Et nous pourrons donc, en tout cas nos auditeurs pourront retrouver toutes les références que nous avons effleurées tout au long de cette émission.
Exact.
Cet album consacré à Vivaldi et Pergolèse, pardon, dont était extrait le Stabat Mater que nous avons entendu tout à l'heure, édité chez Harmonia Mundi. Et puis également vos multiples enregistrements autour des œuvres de Purcell et autres compositeurs
avec Michel,
dans un répertoire très vaste, et avec Michel.
Exactement.
Et en parlant de Michel, puisque nous n'allons pas vous laisser partir comme ça, rassurez-vous, dès ce soir, vous donnerez un concert le fameux Michel Deneuve.
Mais oui.
Dès ce soir, 25 janvier, pour le lancement de l'année Sainte Geneviève.
Exactement, à Paris, exactement, à l'église Saint-François-Xavier, avec le métro du même nom d'ailleurs.
À quelle heure ?
Je crois que c'est à 21h. À 21h, et les organisateurs ont tenu à ce que ce soit ouvert au plus large public possible. Par conséquent, c'est une entrée libre qui vous est proposée ce soir.
Alors, profitez-en ce soir, 21h, pour écouter justement Sébastien Fournier et Michel Deneuve qui joueront en duo.
Voilà, le programme s'appelle Crystal Duet et on y aborde du répertoire de Notre-Dame de Paris, donc Pérotin-le-Grand. Du répertoire également, donc il y a aussi évidemment la chanson de Guillaume de Machaut dans une version avec Crystal cette fois-ci, et Monteverdi, Lamento della Ninfa, on a du Henri Purcell, et on va jusqu'à des compositions de Michel Deneuve en passant par moi j'aime bien faire chanter les gens, j'aime bien que les gens participent, alors on leur propose de chanter l'Alléluia de Leonard Cohen accompagné par Michel Deneuve. Alors rien que pour ça, faut venir.
Un répertoire vaste, ouais, original et participatif.
Ouais,
donc
exact,
vous attend.
Exact.
Vous récidiverez apparemment le 6 février prochain.
Voilà, le 6 février à l'hôtel de Beauvais, mais là c'est pas peine de venir parce que c'est complet.
Ah.
Mais non, je suis désolé.
Alors, il faut y aller ce soir.
Ouais, je suis désolé, mais là c'est pas possible.
Et ensuite, il s'agira d'une performance en trio avec le fameux trio Sprezzatura.
Voilà, avec l'accordéon que vous avez entendu.
Voilà.
Sur la péniche, la balle au bon, où avec Michel Deneuve, nous avons lancé un festival. Donc, on fait des dates régulièrement en proposant, en face sous l'Institut, c'est un lieu magique, sur une péniche, aussi des programmes interactifs. Les gens chantent avec nous, on a fait un programme de Noël avec Michel, on a des artistes invités qui viennent nous rejoindre. Et on passe un très bon moment, surtout que les organisateurs ont à cœur le fameux accueil français, c'est-à-dire l'apéro, quoi, c'est important.
Donc, apéro et concert le 21 mars prochain.
Vive la France.
Donc, ce soir, 25 janvier, le 6 février et le 21 mars, si vous avez aimé cette émission, bloquez ces dates. pour pouvoir écouter Sébastien Fournier and Friends et ses amis à l'occasion de ces trois prochaines dates. Et à défaut de pouvoir vous déplacer à l'occasion de ces concerts, vous retrouverez donc toutes les informations concernant ce fabuleux contre-ténor sur son site internet qui porte le même nom que lui, Sébastien Fournier.
Merci Alexandre.
Merci d'être venu au micro aujourd'hui pour nous parler de cette voix extraordinaire qu'est la vôtre. Merci très chers auditeurs de nous avoir écoutés. J'espère que cette émission vous a plu et je vous dis à bientôt.